Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. On vous proposera des formations dans ce mag. Formations pour du maraîchage sol vivant et des préparations naturelles peu préoccupantes organisées par l'Association de développement de l'emploi agricole et rural. Ce sera pour la deuxième partie de ce mag. Avant ça, une rencontre avec deux jeunes vadrouilleurs photographes à Saint-Antonin-Nobleval et Parisot.
CFM.
Et première partie de ce mag à propos d'une rencontre qui nous est proposée autour du livre « Deux pas vers l'autre », un livre écrit, réalisé par Neil Oppenau et Marie Couderque. Bonjour tous les deux.
Salut.
Bonjour.
Vous avez fait le tour de 16 pays en 2 ans. Ce livre est à la fois un journal de bord, un guide de randonnée. Marie, vous êtes auteur des textes et Neil, photographe. Vous êtes partie complètement à l'aventure après un coup de blues du confinement. C'est une question, du coup.
Alors, c'était avant le confinement, mais il y a quand même eu coup de blues puisque tous les deux, on était un peu à un point de rupture de notre carrière. À un moment où, dans notre trentaine, on s'est dit qu'on avait envie d'autre chose. On ne se sentait pas forcément à l'aise dans ce qu'on faisait avec nos valeurs et ça nous a poussé à imaginer un projet dans lequel on a essayé de donner du sens.
Le confinement a quand même eu son petit rôle à jouer parce que quand on est rentré en France après ces 2 ans de traversée, on a été confinés 2 semaines après, donc vraiment juste au retour du voyage. Et ça a été le moment où a mûri et s'est développé un peu ce projet de livre.
Livre qui est sorti aux éditions Glénat. Vous en faites la promotion aujourd'hui parce qu'on va avoir l'occasion de vous rencontrer ce soir à 18h à Bazart à Saint-Antonin-Nobleval, le bazar textile au 13 rue Saint-Angèle. Et puis demain, samedi à 14h30 à la médiathèque de Parisot, sous une invitation de Festilite et de ses rencontres régulières tout au long de l'année bibliolite. Neil Oppenau et Marie Couderque, donc vous avez traversé, on le disait, 16 pays en 2 ans. Vous avez crapahuté en particulier sur les sommets des montagnes. Alors, vous êtes partis, je crois, hein, sans être forcément des grands sportifs. Moi, j'ai regardé les photos, j'ai eu mal au mollet. Hein.
Bah ouais, c'est sûr que la montagne, ça a été quand même le gros fil conducteur de ce voyage. Pas simplement parce qu'on aime la montagne, mais aussi parce que je pense que c'est là qu'on a essayé d'y trouver le maximum de villages, un peu dans leur jus, ces petits endroits dans lesquels la solidarité fait vraiment partie de la vie quotidienne. Et dans lesquels, finalement, on a réussi à faire le plus de rencontres parce que, je crois qu'on le sait tous, plus la ville est grande et plus les bons jours sont rares, c'est là où les endroits sont les plus petits qu'on a le plus de contacts. Et je pense que du début à la fin de ce voyage, on a réussi à rencontrer des gens qui nous ont ouvert leurs portes et ça a été vraiment le cœur névralgique de cette aventure.
C'était ça l'objectif en partant ?
Oui, c'était ça, c'était d'aller à la rencontre de notre continent déjà, parce que on s'est rendu compte qu'on était assez familier d'endroits très lointains pour avoir voyagé ou pour les voir dans les médias régulièrement et qu'on connaissait très mal finalement des endroits beaucoup plus proches de nous. Et comment découvrir un pays si ce n'est en rencontrant ses habitants, en essayant de comprendre leur mode de vie, leurs habitudes, leur culture, leur langue. Et à travers ces 16 pays, donc du Portugal jusqu'à la Turquie, quel meilleur moyen d'aller à la rencontre des gens que d'y aller à pied, d'y aller lentement et de générer cette rencontre en démontrant l'effort qu'on a fait pour arriver jusqu'à ces gens.
L'éloge de la lenteur aussi, à travers ce voyage à pied, en itinérance, comme ça. Vous connaissiez à l'avance votre parcours ou vous êtes parti un peu à l'arrache?
On avait tracé un itinéraire avant de partir, qu'on s'est un petit peu obligé à ne pas suivre, parce que évidemment, le voyage et l'aventure, c'est avant tout la surprise, et la surprise de tout cet inconnu, finalement, qu'on a pris en pleine tête du début à la fin. Cet itinéraire, on l'a tracé de façon à ce qu'il soit le plus divers possible. Comme tu disais, l'éloge de la lenteur, c'est aussi un moyen pour nous de découvrir cet endroit graduellement, avec tout ce que ça implique. On a souvent l'habitude de prendre l'avion, le train, et d'être catapulté tout de suite ailleurs, dans une autre culture, un autre pays. Ce qu'on voit à pied, c'est que tous ces changements, ils se font petit à petit. Les changements de langue sont progressifs, les changements de paysage le sont aussi, les mentalités, c'est pareil. Et voyager à pied, ça nous a permis justement de découvrir tout ça autrement, mais d'avoir certainement une empreinte carbone un petit peu plus faible et une autre vision de voir le tourisme.
Vous dites empreinte carbone, l'éco-responsabilité du voyage, c'est aussi un peu un objectif, je crois, notamment à travers le projet One Kilo for the Planet hein, que vous avez monté en partant avant de partir.
C'est ça, on imaginait mal cette aventure de 2 ans si proche de la nature sans vraiment mettre la protection de l'environnement un petit peu au cœur de notre démarche. Le projet One Kilo for the Planet, ça a été de démocratiser et de communiquer un petit peu sur un geste très simple qui est que dès qu'on fait une sortie en extérieur, en nature, qu'on promène son chien, qu'on fait une petite rando sur 1 jour, 2 jours, 2 ans, on peut faire ce geste qui est de ramasser les déchets qu'on croise en chemin, de laisser ces endroits déjà un petit peu plus accueillants pour les prochains. Et puis, pour nous, c'était aussi de faire un geste vers ces pays qui nous accueillaient pendant quelques semaines ou quelques mois sur leur territoire et de faire notre petite part de colibri, quoi.
Conséquemment, vous vendez, vous procurez, dispersez des petits tote bags en nylon floqués 1 kilo for the planet. Bon, on n'a pas vraiment besoin de ce sac hein, pour ramasser les déchets qu'on croise en se baladant. Depuis que vous êtes revenu, là, vous faites du test de matériel, vous faites des conférences, vous faites vivre hein, ce voyage, vous en vivez, du coup.
Complètement. Déjà, les sacs, on les a surtout donnés. Hein. C'était un projet associatif avant tout et on n'a pas encore vendu un sac. Un jour, ça se fera peut-être, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout d'actualité. Aujourd'hui, le projet prend plusieurs facettes. On fait pas mal de conférences, comme tu le disais. Et puis, on continue d'avoir des aventures qu'on essaye de garder honnête, sincère, de montrer aux gens qu'on peut vivre des choses assez incroyables dehors, qu'on n'a pas besoin de partir là où les blogs nous envoient en masse, mais qu'il y a des tonnes de petits endroits un peu moins connus qui méritent le détour. Et c'est cette idée d'arriver à proposer une façon un petit peu plus humble de percevoir le sport à outdoor qui nous anime aujourd'hui. On a bien envie de montrer que la randonnée, c'est pas un sport en reste, que c'est à la fois un moyen de découvrir, de s'intéresser à beaucoup de choses, et en même temps un but en soi qui peut être carrément extrême. Parfois, on l'a montré pendant les 2 années de ce périple, on est passé par des endroits assez difficiles, par des conditions tout aussi difficiles, avec des températures extrêmes, et voilà, c'est un peu joindre l'utile à l'agréable.
Moi, je me suis posé justement la question du matériel, parce que vous passez de 2 mètres de neige sur des sommets affolants, hein, complètement, pour moi, affolants, des parois complètement abruptes où vous montez à la verticale, un peu en mode via ferrata, mais sans, j'imagine, toute l'assurance qu'il y a derrière, à des plaines plutôt sympathiques, en ville, à la campagne. Donc, la question du matériel, ainsi que la question du matériel photographique, puisque votre blog à vous, Further, à l'anglaise, hein, furtherstories.com les histoires de plus loin, si on traduit à peu près,
ouais, c'est ça,
c'est ça.
Ouais.
Donc un blog qui est largement illustré, et votre livre, donc le livre Deux pas vers l'autre, donc aux éditions Glénat, où vous avez dû faire un gros tri en termes de photos. J'imagine qu'il y avait l'occasion d'en faire toutes les 10 secondes et que vous avez dû en sélectionner quelques-unes. Et je reviens donc à ma question initiale, c'est-à-dire le matériel.
Oui, on avait pas mal de matériel. On a gardé en tête et à cœur d'avoir quand même le matériel le plus léger possible, de pas se casser le dos pendant 2 ans, que cette aventure et cette découverte restent un plaisir et pas deviennent pas un calvaire en fait. Donc on a passé des semaines, des mois à choisir minutieusement le matériel qui nous permettrait de mener à bien cette aventure.
Combien de kilos le sac, pardon, je vous coupe.
Entre 10 et 20 kilos pour moi entre été et hiver, et entre 20 et 30 pour Neil entre été et hiver aussi. Avec là-dedans 11 kilos d'électronique, un petit peu incompressible, qui nous ont permis de capturer en photo et en vidéo notamment les images de cette aventure.
Ouais, c'est un peu militaire, mais il faut dire que nous, c'est pas du tout ce qu'on prône et ce qu'on recommande. On est parti si lourd parce qu'évidemment, on avait avec nous le matériel d'une petite production audiovisuelle, mais on adore dire à chaque fois qu'on a l'occasion de le faire que plus on est léger et plus on profite, qu'aujourd'hui, il y a de l'équipement qui nous permet de randonner avec beaucoup, beaucoup plus de légèreté qu'avant. Et ça, c'est une chance. C'est une chance qui rend l'activité accessible au plus grand nombre et qui permet vraiment d'aller plus loin, plus fort, plus haut, plus longtemps. Et ça, c'est quand même sympa.
Avant de conclure, allez, une anecdote. Votre meilleur ou pire moment ?
Allez, ce moment où on a fini de traverser les Alpes après 4 mois. La traversée des Alpes, ça a été bien sport. On a traversé donc tout l'arc alpin, du sud de la France jusqu'à la Slovénie. On s'y est jamais fait vraiment, mais ces derniers jours qui nous séparaient de la frontière slovène ont quand même été un petit peu sport. Il venait d'y avoir une grosse, grosse tempête en Italie à ce moment-là. Et cette tempête en montagne, elle se traduisait par des chutes de neige colossales. Nous, on n'était pas prêts en termes d'équipement et pour autant, on n'avait pas envie de renoncer à notre dernier passage de col à cet endroit symbolique qui annoncerait la fin de notre traversée des Alpes. Et on y est quand même allé sans vraiment se rendre compte des difficultés qui nous attendaient, je pense, puisqu'on s'est retrouvé dans des montagnes karstiques, donc avec des crevasses calcaires un peu partout qui étaient bouchées par des ponts de neige et on s'est fait quelques frayeurs. Je pense que c'était les plus grandes frayeurs du voyage avec une magnifique glissade de marée qui s'est retenue in extremis pour ne pas tomber dans une crevasse. On n'en dit pas plus de peur que nos parents entendent cette émission, mais ça a été un peu chaud et finalement, quand on s'est retrouvé de l'autre côté, ça a été une grosse satisfaction.
Marie, une jolie anecdote.
Une jolie anecdote. Ce sera sûrement lié à une rencontre. Enfin, on a fait des rencontres, évidemment, beaucoup de rencontres très marquantes. Mais il y a des moments en particulier dont j'aimerais parler. C'est quand nos familles nous ont rejoints. Nos familles qui nous prenaient un peu pour des fous quand on leur a annoncé qu'on se lançait dans un tel périple. Et qui, quand ils ont vu qu'on le préparait tellement sérieusement, qu'on avait des sponsors, des institutions qui nous soutenaient, ont commencé à y croire. Et... un des plus beaux moments, c'est quand chacun, ils ont décidé de nous rejoindre pour passer une semaine avec nous, marcher, se mettre eux-mêmes dans des situations qu'ils n'auraient pas imaginé vivre, randonner, vivre dehors, camper, chercher à manger, à boire. Et ça a été des moments uniques partagés avec nos parents, nos frères et sœurs, et qui ont créé des souvenirs qu'on n'aurait pas pu créer autrement.
Et ça, on recommande de le faire, de partir avec les gens qu'on aime, de se mettre dans des conditions différentes, de rencontrer ensemble l'autre et ça grave des souvenirs à jamais, je pense.
Oui, on peut se friter aussi, hein.
Des souvenirs, hein.
Ouais. 10 000 kilomètres du Portugal à la Turquie pour Neil Openo et Marie Couder et qui donne lieu donc à ce livre « Deux pas vers l'autre » et qui donne lieu aussi à des conférences illustrées demain, ce soir à 18h sur une invitation du Bazar Textile de Saint-Antonin-Nobleval. On sera au 13 rue Saint-Angèle et puis demain samedi à 14h30 à la médiathèque de Parisot sous une invitation de Festilite et de son Bibliolite. Les conférences aussi tout au long de l'année. Neil Openo et Marie Couder, respectivement photographe et auteur des textes de ce livre « Deux pas vers l'autre » paru aux éditions Glénat. Eh bien, merci beaucoup.
Merci,
salut.
Et restez avec nous, la suite de ce mag après, la musique à propos de deux formations qui nous sont proposées par l'ADR, l'Association de Développement de l'Emploi Agricole et Rural, formation maraîchage sol vivant et préparation naturelle peu préoccupante, c'est la semaine prochaine.
CFM Caylus, le mag.
Et deuxième partie de ce mag à propos de formations qui nous sont proposées, notamment pour la semaine prochaine, mardi et mercredi, autour des préparations naturelles peu préoccupantes. Et le 7 et le 17, maraîchage sol vivant, des formations qui sont proposées par l'ADEAR du Tarn-et-Garonne. Aurélia Leclerc y est animatrice transmission. Bonjour Aurélia.
Bonjour Lisa.
L'ADEAR pour Association de développement de l'emploi agricole et rural. C'est une association qui a 30 ans sur le Tarn-et-Garonne.
Oui, c'est ça, à peu près. On a une forte empreinte locale et territoriale.
Et une vraie cause à défendre. Hein. Pour le coup, on a quand même besoin là, de repreneurs, de fonciers. Il y a une vraie problématique autour de l'agriculture, des agriculteurs.
Oui, surtout bah, dans le Tarn-et-Garonne, au niveau de l'Occitanie, on va dire qu'on est la dernière région avec énormément de départs en retraite et pas de repreneurs pour la suite.
D'où des formations. Alors on commence pour ce mardi et mercredi qui vient des formations autour de préparation naturelle peu préoccupante. Ce sera du côté de la française. J'aimerais bien qu'on commence par définir cette notion de peu préoccupante.
Oui, peu préoccupante, bah, ça veut dire qu'on va utiliser vraiment bah, des produits naturels. Donc, ce sont des préparations voilà, à base de plantes, des fermentations qui sont élaborées bah, pour, comme une alternative en fait, aux produits phytosanitaires classiques. Donc, on est vraiment dans une démarche agroécologique, locale et aussi faire avec ce qu'on a sur la ferme.
Bon, j'ai envie de dire comme d'habitude avec l'ADEAR.
Oui, voilà, on est toujours dans cette même lignée de rendre bah, les paysans autonomes et préserver l'environnement.
Formation sur deux jours à la française à hauteur de 200 euros, donc 100 euros par jour pour les particuliers, mais avec des possibilités de financement par Pôle emploi.
Oui, et aussi voilà, des fonds spécifiques pour les agriculteurs qui connaissent très bien, on va dire, le système Vivea.
Des formations, vous en organisez très régulièrement hein, à l'ADEAR. Là, donc, pour ces préparations naturelles peu préoccupantes, il faut s'inscrire absolument auprès de vous, de l'ADEAR.
Oui, c'est sur inscription et surtout que notre intervenant, Éric Petiot, est assez reconnu dans le milieu. Il a écrit de nombreux ouvrages, donc il est fort possible que la formation soit très rapidement complète.
On va parler aussi de maraîchage sol vivant pour la suite de ces formations proposées par l'ADEAR, toujours. Ce sera le 7 et le 17 février, toujours du côté de la française, à la Barthe, non, plus précisément.
Oui, donc le 7 et le 14 février à la Barthe, donc toujours du côté plus pays la française. Hein.
Contrairement à ce que je viens de dire, donc c'est oui. Pas le 17.
Avec donc l'intervention d'un maraîcher installé depuis quelque temps sur le territoire. Et notre nouvelle animatrice à l'ADEAR, Caroline Bouvier d'Ivoire, qui a travaillé déjà et accompagné pas mal de personnes en maraîchage.
Si je peux récapituler un peu, moi qui n'y connais absolument rien, préparation naturelle peu préoccupante, je pense à la biodynamie, et maraîchage sol vivant, je pense au vers de terre.
Oui, il y a de ça, on va dire, c'est assez bien résumé. Maraîchage sol vivant, c'est vraiment restaurer, on va dire, oui, la vie du sol, notamment voilà, en mettant pas mal de couverts végétaux. Et pareil, on est toujours sur l'utilisation voilà, de compost, de préparation, effectivement, comme celle de la première formation, à base de plantes. Et tout ça voilà, pour recréer un écosystème durable et viable.
Est-ce que vous avez des retours de ces formations que vous proposez, que vous organisez, principalement à destination des agriculteurs et agricultrices? Est-ce que ça a un vrai impact sur le travail au quotidien?
Oui, bah, surtout bah, dans le cadre de suivi justement de nouveaux paysans, dans le cadre de leur suivi post-installation. On est vraiment bah, voilà, sur un accompagnement et des techniques assez... innovante, bien que pour la plupart, on va dire, assez ancestrale, qu'on remet plus ou moins au goût du jour. Mais c'est vrai que quand on est sur ces tests, c'est beaucoup d'adaptation au contexte local. Et le temps de ces formations, c'est aussi le moment où les paysans peuvent aussi échanger entre eux, échanger leurs petites recettes et participent en fait à une certaine dynamique territoriale et de solidarité. Qui permet, bah, voilà, il y a la journée de formation, mais ensuite les échanges peuvent perdurer avec notre appui ou de manière plus informelle.
Les formations de l'ADR, l'Association de développement de l'emploi agricole et rurale du Tarn-et-Garonne, on le redit ce mardi et mercredi prochain du côté de la Française autour des préparations naturelles peu préoccupantes. Et puis le 7 et le 14 février, maraîchage sol vivant à la Barthe. On en parle aussi tôt parce qu'il faut absolument s'inscrire là, avant le 30 je crois.
Voilà,
le 30 janvier.
Avant le 30 janvier.
Auprès de l'ADR, toujours, on vous retrouvera Aurélia Leclerc, animatrice transmission pour l'ADR, puisque le 4 février prochain aussi, il y a un projet à Saint-Antonin d'une journée à propos d'installation en collectif. On ne peut qu'inciter nos auditeurs à aller faire le détour par votre site internet, on y retrouve tout le programme de ce que vous proposez, des formations, des journées d'animation et puis de quoi s'inscrire.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Toutes les informations sont disponibles sur le site, les bulletins d'inscription et les dates de nos prochains événements et rencontres prévues pour toute cette année 2023.
Et il y en a un paquet. Aurélia Leclerc pour l'ADR, un grand merci.
Merci Lisa.
Et merci à vous d'avoir été avec nous tout au long de ce MAC qui ne sera pas rediffusé à 17h puisque nous sommes en direct de 17h à 19h depuis le Albi Jazz Festival et ceci encore demain. Par contre, il sera rediffusé à 21h ce MAC et vous pouvez l'écouter en podcast bien sûr sur le site cfmradio.fr. Écoutez aussi les infos.